Vous écoutez, on lit pour vous.
Les gardiennes d'espoir pour les femmes violentées ont 50 ans. Un texte de Stéphanie Marin paru le 27 janvier 2025 dans Le Devoir. Les refuges pour femmes victimes de violences existent depuis 50 ans au Québec. Depuis un demi-siècle, elles sont les gardiennes de l'espoir, a déclaré Marie-Christine Plante, la directrice générale de Carrefour pour Elle, la première maison d'hébergement à ouvrir ses portes le 6 janvier 1975 à Longueuil. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes souligne dans une lettre ouverte transmise aux médias cette semaine que 1975 marque un jalon historique pour la société et pour les luttes féministes au Québec. Ce fut un moment fondateur, une réponse directe à un besoin criant dans une société où les femmes violentées ou en situation de précarité et d'isolement se retrouvaient trop souvent sans refuge, sans écoute et sans soutien. La violence était considérée comme un problème privé, confiné derrière des portes closes, est-il écrit dans la missive. Dans les années 1970, les femmes victimes de violences conjugales sont souvent rejetées par leur entourage et contraintes de vivre dans la pauvreté, rappelle tristement le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales sur son site web. En effet, le divorce est très mal vu et condamné par l'Église et les possibilités d'autonomie économique pour les femmes sont presque nulles. Une femme divorcée est catégorisée comme une femme de mauvaise vie. Une porte s'ouvre pour elle avec la fondation du Carrefour pour elle de Longueuil, suivie d'un autre refuge à Montréal la même année et de 5 nouvelles maisons d'hébergement en 1976. Il y en a désormais plus d'une centaine, souligne Mme Plante en entrevue. C'est Thérèse Dallaire-Laplante, une ardente défenseuse des droits des femmes qui a fondé Carrefour pour elle afin d'héberger les femmes avec ou sans enfants. Animatrice dans un centre de femmes, elle avait constaté que rien n'existait pour aider celles qui quittaient leur mari, hormis quelques organisations religieuses, ou encore pour celles qui s'étaient fait mettre à la porte par leur conjoint. Il n'y avait aucune ressource, les femmes se retrouvaient à la rue, déplore Mme Plante. La première année, Carrefour, pour elle, disposait de 5 chambres. En 2025, en plus de ces 9 chambres, pour un maximum de 25 personnes, femmes et enfants, il y a également une chambre d'urgence. Rappelons que des refuges refusent des demandes d'hébergement tous les jours. Un appartement de transition et un autre au besoin, financé par sa fondation, qui a été créée en 1986. Anticipant son 50e anniversaire, Carrefour, pour elle, a préparé ses statistiques et rapporte que plus de 16 000 femmes et enfants y ont été hébergés depuis 1975. D'autres données sont plus déchirantes. La maison refuse environ 600 femmes chaque année, par manque de place. Mme Plante rappelle que la crise du logement est le principal frein pour les femmes qui veulent quitter un partenaire violent. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elles sont hébergées plus longtemps qu'avant, étant incapables de trouver un endroit où se loger. À ses débuts, Carrefour pour elle hébergeait 250 femmes par an, alors que, désormais, puisque les séjours se prolongent, elles en aident 90 ou 100. D'autres facteurs retardent aussi leur départ, comme les longs délais à la cour ou ceux entraînés par la régularisation du statut migratoire de certaines femmes hébergées. Un autre changement s'est produit depuis 50 ans. L'offre de services s'est multipliée et diversifiée pour aider à la fois les femmes hébergées et celles qui viennent chercher de l'aide à l'externe sans y habiter. On recense notamment de l'écoute téléphonique, du soutien pour les comparutions à la cour et de l'aide psychologique pour les enfants qui ont été exposés à la violence conjugale. Si ces maisons d'hébergement et d'aide ont été un phare dans la vie de femmes violentées, elles ont aussi été un lieu de mobilisation et de résistance contre ce fléau de société qu'est la violence conjugale, écrit la Fédération dans sa lettre. Les pionnières qui les ont fondées ont aussi ouvert la voie à des changements politiques, législatifs et sociaux importants, ce qui a renforcé la lutte contre tous les types de violences faites aux femmes. En un demi-siècle, la clientèle a changé aussi. Auparavant, les femmes qui venaient cogner à leur porte subissaient de la violence physique. C'est ce qui était connu à l'époque, dit Madame Plante, alors que, désormais, elles viennent trouver refuge aussi parce qu'elles subissent du contrôle coercitif, y compris de la violence psychologique. Il a fallu la publicité du réalisateur Jean-Claude Lauzon avec la chanson « Doux » de Marjo en trame sonore et la création de SOS Violence conjugale dans les années 1980 pour que la définition de la violence conjugale s'élargisse, relate Madame Plante. Cette publicité a fait exploser les demandes d'aide dans les maisons d'hébergement puisqu'il y a eu une prise de conscience qu'il s'agit là d'un problème social qui n'appartient pas qu'à la sphère de la vie privée. Après 50 ans, il y a cette grande satisfaction d'avoir aidé en même temps que cette espérance de pouvoir un jour mettre la clé sous la porte. On est un service essentiel, dit Madame Plante. Alors on doit continuer le travail, dit celle qui rêve à des unités d'habitation supplémentaires et à des intervenantes dans tous les postes de police du Québec pour atteindre systématiquement chaque femme qui a subi une infraction en violence conjugale. « C'est nous les gardiennes de l'espoir, » dit-elle. « Il faut montrer aux femmes que ça peut changer et qu'elles ont le droit au bonheur, à la sécurité et au respect. » C'était les gardiennes d'espoir pour les femmes violentées ont 50 ans. Un texte de Stéphanie Marin paru le 27 janvier 2025 dans Le Devoir.
La Saint-Valentin ne rime pas toujours avec amour. Un texte d'Annick Brazo paru le 14 février 2025 dans La Presse. Annick Brazo est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Elle demande à tous d'apprendre à reconnaître les signes de violences conjugales, même s'ils sont parfois cachés et subtils. Planifier une sortie en amoureux. Recevoir des fleurs. Tout ce qu'il y a de plus banal pour un 14 février. Mais derrière l'image d'un couple parfait, la Saint-Valentin n'a pas la même saveur pour toutes. En contexte de violence conjugale, la belle attention peut en fait sonner comme une menace. Attention à ce qui va t'arriver si tu penses à me quitter. De l'extérieur, saurait-on voir la violence au-delà des apparences? Les femmes qui vivent de la violence conjugale, sans forcément toujours la nommer ainsi, nous le disent souvent. Personne ne pourrait se douter que leur partenaire est violent. Personne ne croirait ce qu'elles vivent. Les auteurs de violences savent dissimuler leur vrai visage et prendre l'apparence d'un voisin serviable, d'un ami attentionné ou d'un collègue sympathique. Le contrôle et la violence s'exercent souvent derrière des portes closes et prennent des formes subtiles. Derrière cette façade, il y a presque toujours des signes qui devraient nous alerter, même lorsqu'il n'y a pas de coup. Surtout lorsqu'il n'y a pas de coup. Et si on apprenait, chacun et chacune à son échelle, à les reconnaître. Changer de regard. Les films, les romans et même l'éducation que l'on a reçue nous ont transmis des idées sur l'amour qui peuvent nous aveugler. Être jaloux, n'est-ce pas une preuve d'amour? Écrire ou appeler sans arrêt sa partenaire, n'est-ce pas le signe d'une relation passionnelle? Géolocaliser sa partenaire, n'est-ce pas une façon de la protéger? Ces comportements peuvent sembler banals si on les observe de façon isolée, mais le cumul de tous ces gestes peut nous indiquer un schéma de comportement calculé pour isoler, contrôler, terroriser et priver la partenaire de sa liberté. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Pour le repérer, il faut aller au-delà des apparences et prendre au sérieux les comportements qui nous paraissent pas corrects. Se sentir pris au piège dans une cage invisible. Se faire dire que c'est nous le problème et finir par le croire. Ne plus pouvoir décider pour soi-même. Obéir pour éviter les représailles. Avoir peur tout le temps. C'est le quotidien décrit par les femmes qui en sont victimes dès l'adolescence parfois. Un quotidien où elles sont privées de ressources et de leur liberté. Détecter les signes. De l'extérieur, plusieurs signes peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur la présence de contrôle coercitif dans un couple. La femme ou l'ado que vous connaissiez n'est plus tout à fait la même. Elle n'accepte plus aucune invitation, ou seulement avec son chum. Elle est pressée de rentrer chez elle après le travail ou après l'école. Elle regarde son partenaire avant de prendre la parole. Elle ne s'habille plus comme avant. Elle ne pratique plus son sport favori. Elle semble inquiète quand elle reçoit des appels. En reconnaissant ces signes, l'entourage peut jouer un rôle déterminant pour soutenir une femme aux prises avec la violence conjugale. Ouvrir le dialogue. Nommer les inquiétudes. Offrir du soutien. Respecter ses choix. Suggérer des ressources et surtout, surtout, garder le contact. Oser aborder le sujet, même si ce n'est pas facile et ça peut tout changer. En tant que parent, ami, collègue, voisin, intervenante, soignant, vous pourriez être la personne qui fera toute la différence dans la vie de la victime. Et celle qui pourrait sonner l'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Dans le doute, n'hésitez jamais à appeler une maison d'aide et d'hébergement qui pourrait vous aider à la soutenir au mieux. En apprenant à voir les signes de contrôle coercitif, on peut aider à sauver des vies. Particulièrement le jour de la Saint-Valentin, rappelons-nous que l'amour ne devrait jamais être une prison. C'était « La Saint-Valentin ne rime pas toujours avec amour », un texte d'Annick Brazeau, paru le 14 février 2025 dans La Presse.
Le bien-être de l'élève au cœur de sa réussite éducative, un texte de Marie-Christine Gaudreau, paru le 11 février 2025 dans Hebdo Rive-Nord. Dans le cadre de sa 21e édition, la campagne nationale des Journées de la persévérance scolaire mettait de l'avant l'importance d'enseigner la santé mentale aux jeunes afin de favoriser leur réussite éducative. Le journal s'est intéressé aux initiatives locales mises en place en ce sens. Mylène Payette, directrice adjointe au service des ressources éducatives du Centre de services scolaires des affluents, CSSDA, nous éclaire sur la question. D'ores et déjà, il faut savoir qu'en 2023, le CSSDA faisait du bien-être de son personnel et de tous ses élèves l'orientation numéro un de son plan d'engagement vers la réussite, PEVR. C'est tellement important d'être bien, affirme d'emblée Mme Payette, pour que l'élève soit disposé à apprendre. Et apprendre, c'est aussi faire des erreurs, c'est aussi manquer son coup et comprendre que c'est pour se réajuster. Il faut qu'il se sente bien dans son milieu pour se donner cette chance, pour avoir cette disposition-là. Le trouble anxieux en progression. Or, l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023 démontrait une progression inquiétante dans la proportion de jeunes présentant un trouble mental, tel que la dépression, le trouble anxieux, ou un trouble du comportement alimentaire. La proportion de jeunes ayant reçu un diagnostic est en constante hausse depuis 2010. À titre d'exemple, pour le trouble anxieux seulement, le taux de diagnostic chez les jeunes du secondaire est passé de 9 % en 2010 à 20 % en 2022. En contrepartie, la proportion de jeunes qui bénéficient d'un soutien social élevé a diminué entre 2016 et 2022, tout comme la proportion de jeunes affichant un niveau élevé d'estime de soi. Cette dernière donnée étant passée de 20 % en 2010 à 12 % seulement en 2022. Des actions pour agir en amont. Pour déjouer les statistiques, le CSSDA mise donc sur le travail en amont, en intervenant dès le plus jeune âge et surtout en incluant le parent dans la boucle. Avant d'être dans le curatif, on travaille beaucoup en prévention, donc à favoriser une santé mentale positive, précise Mylène Payette. Pour ce faire, le CSSDA collabore avec une équipe de santé mentale positive à la santé publique. Celle-ci permet, entre autres, de faire le pont entre les écoles et certains programmes intéressants, comme Hors Piste, un programme développé par le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke, visant la prévention des troubles anxieux et autres troubles d'adaptation du préscolaire au post-secondaire. 24 écoles primaires et 6 écoles secondaires du CSSDA y ont adhéré. Hors Piste amène les élèves à vivre des situations où on peut se questionner sur « Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Quelles sont les bonnes pratiques? Comment je peux gérer, de façon autonome, un conflit avec un ami? » Ils ont des séquences pour y arriver, mentionne Mylène Payette. Construire son coffre à outils. Ces réflexions menées avec Léo et Charlie, les personnages au cœur du programme, permettent notamment aux jeunes de développer de bonnes habiletés socio-émotionnelles, de mieux se connaître, de s'estimer, de composer avec leurs émotions et leur stress, d'apprendre à demander de l'aide et d'adopter des habitudes de vie contribuant au bien-être. C'est tout ça qui va diminuer l'anxiété. Ce qu'on veut, c'est nourrir les jeunes pour qu'ils puissent construire leur boîte à outils pour faire face aux aléas de la vie, poursuit la directrice adjointe. Des communications relayées aux parents à la suite des animations, de même que des conférences entourant les différentes thématiques, vise ensuite à alimenter les discussions à la maison et à poursuivre la réflexion permettant aux élèves d'identifier les solutions qui leur sont propres en fonction de leurs besoins. La réussite, plus qu'une note au bulletin. Pour Mylène Payette, il va sans dire que des initiatives comme celle-ci dans les écoles contribuent à favoriser la réussite éducative sur le plan large. La réussite éducative d'un enfant, c'est l'adulte de demain. Dans la réussite éducative, il y a la réussite scolaire, mais il y a aussi la réussite de l'humain qui vit en société avec les autres. Au-delà des résultats académiques, estime Mylène Payette, il y a, à la base de tout, le savoir-être. Si on n'est pas bien dans notre milieu, on n'est pas disposé à apprendre. C'est pourquoi, à travers Hors Piste et d'autres initiatives, on accompagne aussi les intervenants du milieu scolaire à enseigner les comportements attendus afin de créer un climat de classe sécurisant et favorable aux apprentissages. D'autres initiatives gagnantes pour la réussite. Outre les programmes comme celui proposé avec Hors Piste, plusieurs actions sont mises en place dans les écoles du territoire afin de favoriser le bien-être et la réussite des jeunes. Entre autres, notons différents ateliers maison sur l'importance de l'activité physique et des saines habitudes de vie, des conférences midi offertes en collaboration avec les organismes communautaires locaux, des camps fiances adressée aux élèves de la sixième année du primaire vivant des difficultés relationnelles. Les activités de transition impliquant le parent pour une transition réussie, que ce soit du milieu de garde au préscolaire, du primaire au secondaire ou encore du secondaire au collégial. Soulignons également le programme « Jeunes leaders » qui permet aux jeunes de développer leurs compétences en animant des activités dans leurs cours d'école, inculquant ainsi aux plus jeunes les bonnes pratiques sur la manière de s'occuper adéquatement dans la cour d'école et sécurisant ainsi le climat scolaire. C'était « Le bien-être de l'élève au cœur de sa réussite éducative », un texte de Marie-Christine Gaudreau, paru le 11 février 2025 dans Hebdo Rive-Nord.
Travailler à la caisse assis ou debout, un sujet tabou. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 13 février 2025 dans la presse. Depuis des années, des caissières réclament le droit de pouvoir s'appuyer au besoin pendant leur quart de travail pour éviter les blessures. Alors que des employeurs semblent réfractaires, les consommateurs sont nombreux à être d'accord avec les doléances des employés. Un sujet encore tabou sur le plancher des magasins. Si la caissière de votre épicerie du coin vous faisait payer vos achats en position assise, auriez-vous l'impression d'être mal servi? Chose certaine, près de 86 % des consommateurs québécois estiment qu'un préposé de caisse devrait avoir le choix de pouvoir s'appuyer ou de rester debout selon un sondage léger publié le jeudi 13 février 2025. Et pourtant, rares sont les employés qui donnent un répit à leurs jambes pendant leur quart de travail, alors que c'est une pratique courante dans les supermarchés en France, par exemple. La raison? Le mythe, voulant qu'il s'agisse là d'un manque de professionnalisme, semble tenace chez les employeurs, qui craignent que les clients puissent y voir un signe de paresse, soutient le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, CIAFT. Or, une très grande majorité de Québécois, 86 % croient que les employés de caisse devraient avoir cette possibilité, selon une enquête menée par Léger auprès de 1011 Québécois du 6 au 8 décembre 2024. Et 54 % des gens estiment que la possibilité pour un caissier d'épicerie ou de magasin, par exemple, de s'appuyer sur un banc aurait une influence positive sur sa productivité. Ces résultats contredisent l'argument de certains employeurs, selon lequel l'utilisation d'un banc assis debout nuirait à l'image professionnelle des caissières, affirme Béatrice Monfette, responsable de projet pour le CIAFT, dans un communiqué. Or, l'inconfort causé par la station debout prolongée peut affecter la qualité des interactions avec la clientèle. Cette mesure est donc tout à fait intéressante pour réduire ses effets négatifs tout en améliorant concrètement les conditions de travail de ces travailleuses, dont le rôle essentiel demeure trop souvent dévalorisé. Retour en arrière pour mieux comprendre. Après avoir effectué une étude sur les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires et des caissières, le CIAFT a eu tôt fait de constater que la possibilité de s'appuyer au besoin pendant son quart de travail arrivait au deuxième rang des doléances des employés de caisse, tout juste après le salaire, a expliqué en entrevue Mme Monfette. Plusieurs répondantes ont manifesté l'envie d'utiliser un banc de type assis debout qui permette à l'employé de s'appuyer sans donner l'impression au client d'être totalement assise. De là est venue l'idée, en collaboration avec Détail Québec, TUAC Canada, ainsi que des experts en ergonomie, de sonder les consommateurs afin de vérifier si la perception des employeurs était fondée. Rappelons également qu'en 2024, l'Oblat a lancé un projet pilote dans 10 de ses magasins à l'extérieur du Québec, qui a permis pendant 4 mois aux caissiers de s'asseoir. L'équipe analyse actuellement les commentaires de nos collègues et de nos clients afin de déterminer les prochaines étapes de ce projet, a indiqué le détaillant. En entrevue à l'automne 2024, Richard Dufresne, chef de la direction financière chez L'Oblat, en a rajouté. « Je suis allé en Europe cet été et la moitié des caissières étaient assises. Je ne pense pas qu'on soit réfractaire », a-t-il mentionné, ajoutant dans la foulée qu'il y avait toutefois beaucoup de facteurs à prendre en considération. Un sujet tabou. Des fois, on en parlait entre nous de l'idée de pouvoir être assise, mais on savait que le patron ne voudrait pas, raconte au bout du fil Diane, qui vient tout juste de prendre sa retraite après avoir travaillé 20 ans comme caissière dans un supermarché. Elle n'a pas voulu donner son nom complet par crainte d'être reconnue par son ancien employeur. Chose certaine, elle affirme que jamais ses collègues et elle n'auraient osé aborder le sujet avec leur supérieur, un peu comme s'il s'agissait d'un dossier tabou. C'est quand même demandant d'être tout le temps debout. Quand tu fais des journées de 8 heures, c'est difficile, ajoute-t-elle. Cette ancienne caissière raconte avoir eu régulièrement des douleurs au dos et aux jambes. À l'Intermarché Boyer, sur le plateau Mont-Royal, Francine Côté, 71 ans, ne ressent pas du tout le besoin de s'appuyer sur un banc assis debout pendant qu'elle travaille derrière sa caisse. Tout en pliant les nouvelles circulaires de la semaine, la femme qui travaille dans cette épicerie de quartier 3 jours par semaine raconte fièrement être habituée à être debout, puisqu'elle travaillait auparavant dans un bingo. Il me semble que scanner des articles tout en étant assise, ça ne me ressemble pas du tout, conclut-elle. Employée de caisse en quelques chiffres, source Détail Québec. Nombre de caissiers au Québec, 87 000, tous secteurs confondus, commerce de détail, restauration, hébergement, milieu culturel, cinéma et théâtre, et institutions financières. La majorité, 76 % évolue dans le secteur du commerce de détail et du commerce de l'alimentation, 66 120 travailleurs. Ces postes sont occupés majoritairement par des femmes, 80,5 %. C'était « Travailler à la caisse assis ou debout, un sujet tabou », un texte de Nathaël Morissette paru le 13 février 2025 dans La Presse.